L'Iran ne renoncera jamais à ses lignes rouges dans les pourparlers sur le nucléaire. Les positions turques à l'intérieur de la Syrie ont été attaquées par l'armée syrienne. Et le 42e sommet de la SADC s'ouvre à Kinshasa. C'était les principaux titres, en voici le journal. Un haut responsable de la sécurité iranienne a réaffirmé mardi 16 août que l'Iran n'avait pas renoncé et ne renoncerait jamais à aucune de ses lignes rouges dans les pourparlers relatifs à la relance de l'accord sur le nucléaire de 2015. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, Ali Shamkhani, a tenu ses propos lors d'une rencontre avec des membres de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien. Qu'un accord soit conclu ou non, les intérêts de la nation iranienne seront sauvegardés, a souligné M. Shamkhani, commentant la politique gouvernementale qui consiste à refuser de lier l'économie iranienne au pourparlers sur le nucléaire. Il a déclaré que la loi adoptée par le Parlement en décembre 2020 donnait au gouvernement les prérogatives nécessaires pour faire face aux sanctions américaines et protéger les intérêts de l'Iran. Tard lundi, l'Iran a déclaré avoir fourni à l'Union européenne sa conclusion finale sur les pourparlers visant à relancer le plan global d'action conjoint, soulignant que c'est maintenant au tour des États-Unis de faire preuve de réalisme et de flexibilité s'ils veulent vraiment qu'un accord final soit trouvé. Nous avons reçu la réponse iranienne lundi soir. Nous l'étudions et consultons les autres participants au plan global d'action conjoint et les États-Unis sur la voie à suivre, a déclaré la porte-parole de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité, Nabila Masrali. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a également déclaré le même jour que si les États-Unis montraient une réaction réaliste et flexible à l'offre de l'Iran, nous serions sur le point d'être d'accord. Les médiateurs de l'Union européenne avaient fait circuler une proposition finale pour sauver l'accord nucléaire iranien la semaine dernière. Le bloc a décrit ce texte comme le dernier espoir de sauver un accord censé limiter l'activité nucléaire de Téhéran en échange de la levée des sanctions, y compris sur son secteur énergétique. Le pétrole supplémentaire en provenance d'Iran pourrait apporter un soulagement indispensable à une économie mondiale frappée par la flambée des coûts de l'énergie. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de 20,8% à Londres pour s'échanger mardi un creux de 6 mois, les commerçants pesant le ton plus productif des pourparlers sur l'Iran. Les positions turques à l'intérieur de la Syrie ont été attaquées par l'armée syrienne à la suite de 2 attaques aériennes de la Turquie qui ont ciblé des endroits distincts à travers le pays arabe. Les forces armées syriennes ont mené la contre-attaque mardi, causant des pertes matérielles et humaines dans certains sites militaires turcs à l'intérieur de la Syrie, ont rapporté les médias d'État syriens. L'armée a également ciblé les positions de certains groupes armés et endommagé leurs centres d'entraînement. Les représailles sont intervenues après qu'une frappe aérienne turque a tué au moins 3 soldats syriens et en a blessé 6 autres près de la ville d'Alep, dans l'ouest de la Syrie. La télévision d'État syrienne a rapporté mardi que des avions de guerre turcs ont ciblé des postes militaires syriens dans la campagne d'Alep. De 14h37 à 15h heure locale, 11h37, 12h GMT. Décrivant l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis comme des marionnettes entre les mains des États-Unis, Mahdi al-Mashhad, chef du Conseil politique suprême du Yémen, a déclaré que les armes américaines livrées aux mercenaires de la coalition saoudo-émirati ne leur serviraient à rien devant les frappes aux missiles et aux drones de la résistance yéménite. Il a fait ce commentaire lors d'un grand défilé militaire des forces de réserve et d'intervention centrale dans le gouvernorat yéménite d'Amaran, tenu mardi 16 août en présence de Mahdi al-Mashhad, le chef du Conseil politique suprême du Yémen et d'autres hauts responsables yéménites. Il a ajouté que le soi-disant fracas des manœuvres américaines en mer Rouge et dans le golfe d'Aden n'était même pas capable de créer un iota de peur auprès des combattants yéménites avant d'avertir l'ennemi de scénarios surprenants de la résistance yéménite dans les jours à venir. Qualifiant de longue évasion l'exercice conjoint américano-saoudien qui se déroule à Yanbu, il a annoncé que plus les ennemis insisteraient sur la poursuite de l'agression et du blocus contre le Yémen, plus notre volonté de le détruire augmenterait. Le président du Conseil politique suprême a salué la fermeté du peuple palestinien, soulignant la position claire et ferme de la République du Yémen sur la cause palestinienne. L'agression contre le Yémen et son blocus sont le résultat de sa position ferme et claire contre le régime d'occupation d'Israël qui doit se retirer immédiatement de la terre de Palestine, a-t-il indiqué. Conjointement à la parade militaire, la cérémonie de remise des diplômes de deux brigades des provinces type Taiz et Al-Zaleh s'est tenue avec le soutien du gouvernement de salut national du Yémen avec le défilé baptisé Al-Aqsa Al-Sharif dans la province d'Ip. Le défilé a eu lieu avec le soutien du Conseil politique suprême du Yémen et son objectif a été déclaré de faire face à d'éventuelles options militaires si le cessez-le-feu humanitaire ne réussit pas. Les forces yéménites ont piétiné les drapeaux américains et israéliens lors du défilé Al-Aqsa Al-Sharif. Malgré l'embargo naval et aérien, le Yémen a atteint des capacités fiables dans le domaine de la défense et de la puissance militaire et la construction de divers drones et missiles opérationnels est un exemple de ces succès. La ville de Kinshasa accueille du 17 au 18 août le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Le chef de l'État congolais présidera cette organisation sous-régionale pour l'exercice 2022-2023. C'est dans cette optique que Lazarus Chakwera, chef de l'État du Malawi et président sortant de cette organisation, s'est entretenu avec Félix Tshisekedi ce mardi 16 août à la Cité de l'Union africaine. Lazarus Chakwera a fait part à la presse de la mise sur pied dans les tout prochains jours d'une commission mixte en charge d'analyse pour la faisabilité d'un ambitieux projet entre le Malawi et la RDC. Il s'agit de la construction des voies routières et ferroviaires dans le but d'établir des échanges commerciaux entre la RDC et l'Afrique australe, particulièrement son pays. Ceci passera par la suppression des visas pour permettre l'intégration de deux peuples. Ce 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC est placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie, de l'enrichissement des minéraux et des chaînes de valeur régionales pour une croissance économique résiliente ». Ce sommet se tient chaque année et réunit les chefs d'État et de gouvernement des 16 États membres de la SADC, à savoir Angola, Botswana, Comores, République démocratique du Congo, Eswatini, le Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, République unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a appelé lundi 15 août à Bamako la communauté africaine et internationale à soutenir le Mali dans sa lutte acharnée contre le terrorisme, soulignant la nécessité d'intensifier tous les efforts pour contrer ce fléau qui requiert des réponses globales. En tant que président de l'Union africaine et voisin, je suis venu apporter mon salut, ma solidarité au peuple malien et aux autorités de la transition, a indiqué le chef d'État sénégalais, cité par le communiqué appelant à l'accompagnement de la transition malienne. Des questions bilatérales, notamment d'ordre économique, ont été également au menu des échanges, selon la présidence. La visite du président sénégalais au Mali est la première depuis la prise du pouvoir par le président de la transition Assimi Goïta en mai 2021. Le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a appelé mardi 16 août le Sénégal à l'appuyer pour les prochaines étapes de la transition. En visite d'amitié et de travail au Tchad depuis lundi soir, le président du Sénégal, Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, a eu un tête-à-tête mardi avec Mahamat Idriss Déby. Selon un communiqué de la présidence tchadienne, le général Mahamat Idriss Déby a saisi l'occasion pour demander l'appui du Sénégal pour aller au bout de la transition. Dans son discours prononcé lors de l'audience accordée au président de la République du Sénégal, le chef de la junte tchadienne a sollicité l'appui du président sénégalais pour la poursuite de l'accompagnement politique de l'Union africaine au processus de transition, mais également son soutien personnel pour être le catalyseur dans la mobilisation des ressources requises afin de parachever les étapes restantes de la transition en vue de déboucher sur un dénouement heureux, attendu, voulu et espéré de tous. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a appelé l'ensemble de groupes rebelles tchadiens qui n'ont pas encore signé l'accord de paix de Doha à rejoindre le dialogue national inclusif afin que les conclusions de cette rencontre prévue le 20 août soient les meilleures pour le Tchad, les meilleures pour l'Afrique et donner le maximum de chances de parvenir à une paix globale, inclusive et durable. L'Union africaine a annoncé dimanche 14 août l'envoi d'une délégation au Tchad ayant pour mission d'évaluer la situation de la transition. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Occident-Iran. Un début d'accord. L'Union européenne confirme avoir reçu la réponse de l'Iran à un texte modifié proposé par l'Union visant à relancer l'accord nucléaire de 2015, affirmant que le bloc étudie la réponse avec les parties à l'accord et les États-Unis. Citant une source diplomatique souhaitant maintenir l'anonymat, la chaîne de télévision américaine CNN a annoncé que l'Iran demanderait une compensation si les États-Unis se retiraient à nouveau de l'accord sur le nucléaire. Nabila Masrali, porte-parole du chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, qui a coordonné les pourparlers entre l'Iran et le groupe de pays P4+1 dans la capitale autrichienne Vienne, a fait ses remarques lors d'un entretien avec l'IRNA ce mardi 16 août. Nous l'étudions et consultons les autres participants du plan global d'action conjoint et les États-Unis sur la voie à suivre, a-t-elle déclaré. Tard lundi 15 août, l'Iran a déclaré avoir fourni à l'Union européenne sa conclusion finale sur les pourparlers visant à relancer le plan global d'action conjoint, soulignant que c'est maintenant au tour des États-Unis de faire preuve de réalisme et de flexibilité s'ils veulent vraiment qu'un accord final soit trouvé. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a également déclaré le même jour que si les États-Unis montraient une réaction réaliste et flexible à l'offre de l'Iran, nous serions sur le point d'être d'accord, ajoutant « La partie américaine a accepté oralement deux propositions offertes par l'Iran ». Un conseiller de l'équipe de négociation iranienne a déclaré que les parties de négociation sont plus proches d'un accord final sur la relance de l'accord qu'elles n'ont jamais été. « Je ne peux pas dire qu'il y aura un accord, mais nous sommes plus proches qu'avant », a déclaré Mohamed Maradi, qui est également vice-président pour les affaires internationales à l'Université de Téhéran, dans un post sur son compte Twitter, citant des propos qu'il a tenus lors d'une interview avec Al Jazeera. Dans sa réponse, a-t-il ajouté, l'Iran a exprimé ses inquiétudes, mais les problèmes restants ne sont pas très difficiles à résoudre. Ces préoccupations sont fondées sur les violations passées des États-Unis et de l'Union européenne, a tweeté Maradi. 4 jours de pourparlers à Vienne entre les représentants de l'Iran et les 5 autres parties du plan global d'action conjoint pour sauver l'accord ont abouti le 8 août avec un texte modifié sur la table. Le négociateur en chef de la Russie dans les pourparlers de Vienne, Mikhail Ulyanov, a déclaré mardi que la partie américaine devait répondre à la réponse de l'Iran à la proposition de l'Union européenne sur le retour des parties au plan global d'action conjoint, soulignant que la balle était désormais dans le camp américain. Ulyanov, qui est également le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, a déclaré à Sputnik que les parties pourraient parvenir à un accord au début de cette semaine. Les développements du mardi ont montré que cela peut arriver, sinon cette semaine, du moins la semaine prochaine, a-t-il indiqué. Il a également noté que l'Iran a exprimé sa volonté de parvenir à un accord avec le groupe des pays P4+1 à condition que les États-Unis acceptent 3 amendements. Le haut diplomate russe a souligné qu'en cas de réponse positive, une réunion des ministres des Affaires étrangères se tiendrait prochainement et qu'un accord serait conclu, puis mis en œuvre. l'Iran et les autres parties au plan global d'action conjoint, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ont entamé des pourparlers dans la capitale autrichienne Vienne en avril de l'année dernière. Alors que les parties ont noté des progrès dans plusieurs cycles de pourparlers, l'indécision dont a fait preuve Washington a empêché toute percée significative.